franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est presque 13h30. C'est l'heure de retrouver Jean Lebrun. Bonjour Jean.
Bonjour Claire Sarvajan.
Au programme de la marche de l'histoire aujourd'hui.
Eh bien, une modeste contribution au programme de France Inter liée aux folles journées russes de Nantes. Vous savez que Frédéric Lodéon, par exemple, est à 16h en direct à la Cité des Congrès. Et nous sommes ici à Mangin, en compagnie d'un professeur mi-genevois, mi-pétersbourgeois.
On va pouvoir commencer ? Allons-y !
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Église et pouvoir en Russie.
Je vous remercie à travers vous, l'État russe, pour cette coopération qui existe aujourd'hui entre notre Église et l'État. Que Dieu vous bénisse et toute la Russie.
Ainsi parle le patriarche de Moscou au président sortant, Medvedev. Son prédécesseur avait certes dit « La coopération de l'Église et de l'État ne constitue pas un mariage. » En tout cas, avec la hiérarchie ecclésiastique actuellement en place à Moscou, il n'y a pas de risque de divorce. Dans le scrutin présidentiel prochain du 4 mars, Poutine n'a pas à compter l'Église parmi ses opposants. Davantage, il la considère comme son allié dans la lutte contre toute évolution trop libérale ou trop occidentale du pays. En apparence, tout se passe donc comme si la Russie, revenue de son voyage au bout de l'athéisme, retrouvait son assiette traditionnelle, le trône et l'autel. En apparence seulement, parce que d'une part, la pratique et l'instruction religieuse ne retrouveront pas le niveau d'avant la Révolution, et que d'autre part, avant la Révolution, c'était tout le pays qui se concevait comme une société de chrétienté, et ce n'est pas ainsi que la Russie peut être unie aujourd'hui. Ce qui demeure en revanche, se renouvelle en profondeur, c'est le courant spirituel, souvent radical, qui a fait éclore au long de l'histoire mille fleurs de sainteté et beaucoup de figures de philosophes réformateurs. Il existe peut-être ainsi 700 monastères maintenant à travers le pays. La parole la plus influente passe peut-être par le silence. Georges Niva, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous vivez en russe, c'est-à-dire que vous vivez dans la langue russe depuis la plus haute antiquité, et maintenant vous vivez assez souvent en Russie.
Bon, je vais souvent à Saint-Pétersbourg, je prépare un voyage pour aller à Irkoutsk, Khabarovsk et Vladivostok. Et j'étais dans un monastère en juillet dernier, un des très grands monastères en Carélie finnoise, le monastère de Valaam.
Oui. Vous avez rencontré le patriarche et Poutine, mais ça, on le dira à la fin de l'émission quand on viendra à la situation présente. Commençons par les débuts de la chrétienté russe. Georges Niva, elle se constitue, disons, autour de l'an 1000. Le patriarcat premier, ce n'est pas Moscou, c'est Kiev. Et le modèle, c'est Byzance.
C'est-à-dire, non, Kiev n'a jamais eu de patriarcat. C'était une métropole.
Ah, c'était un métropolite.
L'érection au patriarcat, c'est à Moscou et c'est à la fin du XVIe siècle. Ça a été assez bref puisque l'empereur Pierre le Grand a mis fin au patriarcat. C'est-à-dire, il a mis fin à l'indépendance de l'Église. La symphonie byzantine, ce qu'on appelle la symphonie.
Attends, ce que vous appelez la symphonie byzantine,
c'est entre patriarche
pouvoir,
et
entre le patriarche de Constantinople et l'empereur byzantin.
C'est deux pouvoirs parallèles. C'est pas le même pouvoir qu'on se partage.
C'est pas un mariage.
Ça n'a rien d'un mariage. C'est une symphonie. C'est-à-dire, on parle d'une seule voix au nom de Dieu, mais du point de vue spirituel et du point de vue temporel. Alors, cette symphonie, elle n'a au fond jamais existé en Russie. Elle n'existe pas vraiment aujourd'hui. Je ne pense pas qu'on puisse parler d'un mariage. Vous savez, le patriarche, ne serait-ce que ça, a plus de territorialité que le président ou le premier ministre de la Russie. Le patriarche, il a autorité sur d'anciennes républiques soviétiques, des paroisses en Baltique, en Ukraine, en France et jusqu'au Quai Branly où il va faire un centre cultuel et culturel orthodoxe russe.
Mais alors, quand la chrétienté russe se construit à Kiev d'abord et ensuite à Moscou, c'est une société de chrétienté où le souverain, qui a de plus en plus de pouvoir, et le chef de l'Église vont dans le même sens. Mais une société de chrétienté, je ne sais pas si ça satisfait tous les chrétiens orthodoxes, on commence à parler d'orthodoxie. Au Moyen-Âge russe, il y en a qui disent que ce n'est pas la société de chrétienté d'aujourd'hui qui est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il est à venir. Alors, il faut essayer de trouver une société idéale qu'on puisse construire hors du contrôle politique immédiat.
Le royaume de Dieu, il est soit à venir dans l'histoire et aussi à venir dans le cœur de chaque croyant. Le royaume de Dieu, il est en toi. Et ça a été prêché par tous les grands saints russes comme Saint Serge de Radonège. C'est Vladimir, grand duc, grand prince à Kiev, qui a baptisé son peuple, comme on faisait à l'époque. C'était le prince épousait une religion et tout le peuple suivait. Donc ils sont tous entrés dans le Dniepr, ils ont tous été baptisés dans le Dniepr. Et vous savez pourquoi il avait choisi ? Il avait convoqué devant lui quatre religions, la latine, la grecque, la musulmane et la juive, probablement les Khazars juifs, les Khazars juifs, la 13e tribu. Et il leur a dit « Expliquez-moi votre théologie, hein, et faites-moi un exercice pratique de culte. » Et après le culte grec, byzantin, orthodoxe, il a dit « Je me serais cru au paradis, la décision était prise. »
Saint Vladimir, c'est le souverain. Saint Serge de Radonège, que vous avez cité, c'est un fondateur de monastères. Alors, oui. Les lieux idéaux où se préfigure le royaume de Dieu à venir, ce sont les monastères.
Oui, ce sont toujours des hommes de Dieu qui se retirent hors de la ville, dans la forêt, au désert. Ça a été le cas du très jeune Saint Serge de Radonège, qui a fondé d'abord ce qui est devenu aujourd'hui le grand monastère de l'Ordre de la Trinité Saint-Serge, qui est le deuxième monastère, parce que le premier, c'est celui de Kiev, c'est la l'Ordre des Grottes. Kiev est la mère des villes russes, Kiev est le lieu du baptême de la Russie médiévale, la Rousse, et Kiev est le siège de Sainte-Sophie, la première des grandes cathédrales, et de la Laure, le premier des grands monastères. Alors Saint-Serge, c'est sous le joug tatar.
Ah, et c'est sous le joug tatar aussi qu'œuvre un moine, un autre moine bien connu, qui a constitué le meilleur de l'iconographie russe. Voici un extrait du chef-d'œuvre de Tarkovsky, l'autobiographie d'une âme, celle d'Andrei Roublev.
Благословляется, освящается колокол сей, кроплением воды сия священной, во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Благословляется. Béni et sanctifié soit cette cloche par aspersion de nos saintes eaux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi soit-il.
C'est un moine qui désespère de la situation politique du moment, mais qui va trouver appui dans l'innocence d'un adolescent et puis dans la joie des ermitages et des monastères.
Puis c'est aussi la naissance de cette magnifique iconographie russe, très différente de l'iconographie byzantine. Évidemment, les grandes mères de Dieu sont en général dérivées de l'iconographie de Byzance, mais l'iconographie fondée par Andrei Roublev est plus mystique. Et puis l'iconographie du nord, des monastères de Kirillov et de cette région-là, est presque plus, comment dire, abstraite. Elle devient un art abstrait, elle a inspiré Malevitch et d'autres peintres.
Alors nous sommes avec lui au XVe siècle. Je voudrais que vous nous racontiez, Georges Niva, un grand moment de querelle entre Église et État et aussi entre deux tendances de l'Église au XVIe siècle, la querelle des possédants et des non-possédants.
Ben oui, d'un côté, c'est un igoumène puissant, Joseph de Volokolamsk, et de l'autre, c'est le fondateur d'un petit ermitage, Nil de la Sora, de la rivière la Sora. Il ne reste plus rien de l'ermitage de Nil de la Sora. Je suis allé le voir, il ne reste plus rien. À cet endroit-là, il y a un petit orphelinat pour enfants débiles, qui était assez effrayant à voir. Il reste le monastère de Volokolams. Bien entendu, c'est Joseph et ce sont les possédants qui ont gagné. La différence avec l'Occident...
Alors, Joseph, c'est quelqu'un qui dit, en échange de l'obéissance de l'Église, l'État va nous laisser d'immenses domaines, beaucoup de possibilités d'action sociale, de charité.
Ce sont les croyants qui donnent à l'Église. Mais le même problème s'est posé en Occident. La réforme de François d'Assise, par exemple, c'est pour refuser la possession. Simplement, l'Église latine, comme disent les Russes, l'Église d'Occident, elle a plusieurs ordres, elle a plusieurs cordes à son arc. Donc elle peut avoir des ordres mendiants et des ordres possédants. En Russie, il n'y a pas différents ordres. C'est un système monastique moins charpenté, moins schématisé. Et les non-possédants ont perdu. Ils ont perdu plusieurs fois parce que l'accumulation de richesses revient, le désir de revival, de réformer, de revenir à la pauvreté christique revient, bien entendu. Et il y a eu une période où l'Église était particulièrement persécutée, c'est quand même les 70 ans du pouvoir communiste. Ensuite, elle a restauré cette position. Elle a repris même des exploitations agricoles.
Mais attendez, revenons à notre XVIe siècle. Vous dites que ce sont les possédants qui l'emportent. Moi, j'allais dire, parce qu'il faut faire réintervenir le tsar. Et par exemple, la première figure de souverain moderne, peut-être de la Russie, c'est Ivan IV, le terrible, qui, milieu XVIe, remporte la mise. Alors là, nous sommes avec un autre chef-d'œuvre du cinéma, un vrai opéra, Eisenstein, Ivan le Terrible.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le grand prince et seigneur, Ivan Vassilievitch, saint la couronne de Russie, il est désormais tsar de Moscou et seigneur absolu de toutes les Russies.
Les monastères aux revenus considérables, qu'ils participent désormais aux affaires militaires, car leur trésor s'accroît sans que la terre russe en ait profit. Il nous faut un pouvoir fort afin de faire courber les Chines à ceux qui s'opposent à l'unité de l'État russe, car un État fort à l'intérieur peut être solide aussi à l'extérieur. Or, la terre de nos pères est mutilée. Elle a les membres coupés aux coudes et aux genoux. Le cours supérieur de la Volga, de la Dvina, du Volkov, nous appartiennent.
Et oui, les monastères commencent dans le radicalisme et puis ils arrondissent leurs pelotes. Mais les tsars commencent par affirmer leur pouvoir et finissent comment? Comment il a fini, Ivan le Terrible?
Bon, comme beaucoup d'autres souverains, il a pris la tonsure monastique de façon à avoir plus de chance lorsqu'il se présenterait devant le jugement dernier. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le film magnifique d'Eisenstein est un film d'ailleurs qui était une commande de Staline. La deuxième partie n'a pas plu au souverain maître, mais c'est un film qui est plus esthétique qu'historique. Le film, le grand film que vient de faire Pavel Lungin, qui s'intitule Tsar, le Tsar, lui, il porte sur la lutte entre Ivan et puis Philippe, le métropolite. Alors là, vous voyez vraiment les deux affrontés. Philippe termine dans les supplices, il est condamné et il est exécuté sournoisement dans un cul de basse fosse. Et là, on voit à quel point ça a été difficile, ce dialogue entre le pouvoir et l'Église. Il ne faut pas représenter l'Église russe comme une servante du pouvoir.
Mais d'ailleurs,
elle s'est insurgée et elle a été martyrisée également.
D'ailleurs, au XVIIe siècle, nous passons maintenant un siècle, Boris, c'était le milieu du XVIe, voilà qu'un patriarche qui s'appelle Nikon imagine qu'il va rétablir la suprématie du pouvoir spirituel. Il va déclencher une grande crise, encore une autre,
Nikon,
à partir de cette initiative.
Ça commence d'une façon magnifique. C'est la société des amis de Dieu. Ils sont trois amis de Dieu qui sont très amis. Le protopope, le futur protopope Avakoum, le tsar Alexis, qui s'appellera dans l'histoire Alexis le Très Doux, et Nikon, le futur patriarche. Jamais un trio d'amis et amis de Dieu n'a terminé aussi mal, puisque Avakoum a refusé les réformes de Nikon, en particulier les réformes des textes sacrés.
Alors Nikon, il voulait rétablir le pouvoir spirituel du patriarche et il voulait modifier les rites.
Non,
il voulait retourner aux rites de Constantinople.
Il voulait corriger des traductions.
Ah bon,
il n'avait pas totalement tort. Simplement, il s'y est très mal pris. Parce que quand on est dans le rite et dans la liturgie, il faut convaincre les prêtres et tout le clergé. Ce qu'il n'a pas fait, il a utilisé la main forte. Avakoum est un homme de Dieu qui s'est révolté, qui, avec sa femme et ses enfants, puisqu'il est un prêtre, il est marié, il n'est pas un moine, il est parti en Daouri. Ensuite, il a été envoyé à Pustosiersk dans un cachot de glace. Il a été brûlé à Pustosiersk et il nous a laissé une vie qui est un des plus grands textes russes, la vie d'Avakoum.
Et il nous a laissé le nom de vieux croyants pour le groupe qu'il a constitué.
Alors Voltaire s'en est moqué en disant les uns se signent avec deux doigts, les autres avec trois doigts. Deux doigts, c'est les vieux croyants. Trois doigts, c'est les orthodoxes. Mais il ne faut pas se moquer des vieux croyants. On ne peut pas se moquer de gens qui ont mis le feu à leur propre chapelle quand ils étaient encerclés par les troupes du tsar dans les forêts d'outre-Volga. C'est le thème de l'opéra de Moussorgski, La Khovanchina.
Aujourd'hui, programme très musical, vous avez raison de le dire, Georges Niva, folle journée russe de Nantes oblige. Alors là, nous sommes à l'acte 5, dans cet ermitage de glace où les vieux croyants se sont réfugiés, les soldats les assiègent. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils dressent eux-mêmes des bûchers.
Ils ont
construit eux-mêmes leur bûcher.
Ils ont mis des fagots l'église de bois où ils sont rassemblés. Ils y mettent le feu.
Ils allument le feu avec des cierges.
En chantant.
Et ils chantent.
De l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Le pouvoir et l'Église en Russie avec Georges Niva, les vieux croyants. Nous sommes au milieu là, du règne de Pierre le Grand dans la Khovanchina, finale de l'acte 5, les chœurs et l'orchestre du Bolchoï, l'invention du suicide spirituel par le feu, bien avant les bons. Ils sont très attachants, les vieux croyants. Notre maître Pierre Pascal, Léon Poliakov leur ont consacré beaucoup de travaux. Mais est-ce que ça n'a pas manqué une réforme protestante, plutôt qu'une crispation sur des gestes archaïques, comme chez les vieux croyants en Russie?
Ben, il n'y a pas eu de réforme protestante. Il y a eu ce qu'on appelait les judaïsants. C'était une sorte de forme de réforme venue de Luther. D'ailleurs, Ivan le Terrible était très théologien, adorait les polémiques avec les théologiens, a fait venir un jésuite de Rome, envoyé du pape, pour polémiquer avec lui. Il s'appelait Possevino, et le livre de Possevino qui raconte sa polémique avec Ivan est très intéressant. Ce n'est pas le cas de Pierre le Grand. Pierre le Grand, lui, il voulait qu'on obéisse de façon à ce qu'il puisse réformer matériellement, économiquement, socialement le pays. Donc il supprime le patriarcat. Et depuis Pierre le Grand jusqu'à 1917, l'Église russe, qui avait obtenu son érection en patriarcat autonome à la fin du XVIe, est soumise au pouvoir séculier. À partir de 1905, après la première révolution russe, on obtient quand même la liberté de conscience. Les vieux croyants, à ce moment-là, sont libres. Ils font ce qu'ils veulent. Ceux qui ont des prêtres, ceux qui ont des évêques, ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils sont divisés. Et c'est en 1917 que le concile longtemps attendu, le concile de l'Église orthodoxe de toutes les Russies, décide la recréation du patriarcat.
Mais l'Église était prise dans un étau de Pierre le Grand à 1917, mais l'esprit se débattait. C'est le moment, Georges Niva, de parler des starcis, les pères spirituels, de parler des pèlerins, des folles en Christ.
Bon, le fol en Christ, ça commence au XVIe siècle. Il y a le petit fol en Christ, le Jurodivy, que l'on entend chanter dans l'opéra Boris Godounov. Mais il y en a encore au XIXe siècle, puisque dans Les Démons, on voit que toute la société de la femme du gouverneur, ils se rendent en calèche voir un starets qui est aussi une sorte de Jurodivy.
Alors ça, c'est chez Dostoïevski.
En revanche, alors à Optino, qui est un des grands centres culturels, monastiques au XIXe siècle, là, il y a une série remarquable de starets.
Alors, qu'est-ce que c'est un starets ?
Pratiquement tout le monde est... Alors le starets, il vit en général... C'est un ancien, c'est le mot veut dire un ancien. En général, il commence par vivre à l'écart, au désert, ou dans ce qu'on appelle un skit. Et puis, au bout d'un certain temps, qui peut être 10 ou 15 ans, sa sainteté apparaît à tout le monde. On va lui demander des conseils et il lit dans votre cœur. Vous n'avez pas besoin de lui expliquer. Il lit les souffrances qu'il y a dans votre cœur. Et il devient ce qu'on appelle un père spirituel. Il exerce une paternité spirituelle. Alors, Gogol est allé à Optino, Dostoïevski. Tolstoï est allé très souvent. Il avait une sœur qui était moniale à côté de Optino à Chevardino. Tout le monde est allé voir, surtout Ambroise, Amvorossi.
Tolstoï qui décrit non seulement le starets, mais le pèlerin qui peut être une femme qui parcourt les routes et la forêt.
Sur la grande route, j'ai rencontré deux femmes en pèlerinage, de Simbirsk. L'une mariée, l'autre moinesse. Elle demande l'aumône. Pour se rendre à Kiev, elle a reçu la bénédiction de Lukeryushka. Lukeryushka a 90 ans. Depuis l'âge de 19 ans, elle va nu-pieds hiver comme été. Ne sait ni lire ni écrire, mais connaît si bien l'écriture par ouï-dire qu'elle peut tout raconter, mieux que les gens d'église. Elle mange du pain béni une fois par semaine. Elle dort à même le sol, une pierre pour oreiller. À une fenêtre, elle reçoit l'aumône. À l'autre, elle la donne. Un chef de la police, il était fâché, est venu chez elle. Ôte ta peau de hérisson, avec elle tu n'entreras pas au royaume des cieux. Il est devenu un autre homme, il va la voir chaque semaine. Deux fois elle est allée à Kiev nu-pieds. Tolstoï.
Il y a les 1000 figures de la sainteté, il y a les 100 fleurs de la réforme, tous ceux qui imaginent une autre orthodoxie. Juste un nom.
Jean Lebrun, avant de passer à ses 100 fleurs, peut-être citer le pèlerin russe anonyme, ouais, qui a laissé un livre touchant. Il vit de la prière perpétuelle, le nom du Christ, et dans la littérature russe a joué un très grand rôle. Ce pèlerin anonyme, nous ne savons pas qui il était, mais la Russie était couverte de pèlerins qui pèlerinaient d'un monastère à l'autre.
Alors juste un nom, Georges Niva, parmi ceux qui ont imaginé une réforme, le père Florinski, auquel vous avez consacré un texte il n'y a pas longtemps.
C'est-à-dire que Florensky représente cette nouvelle floraison de pensées religieuses qu'il y a eu au début du XXe siècle. Et beaucoup d'entre eux avaient commencé par être marxistes. C'est le cas du théologien et futur prêtre Serge Bulgakov, c'est le cas de Berdiaev. Ils sont plusieurs. Et il passe du marxisme à l'idéalisme. C'est le titre d'un recueil qu'ils écrivent en 1903. Le marxisme, enfin le parti marxiste, a été fondé en 1899. Et Florensky est un mathématicien de premier rang. Il a terminé les mathématiques, la physique, la philo. On lui propose de rester enseigner à l'Université d'État de Moscou. Il refuse, il va à la Trinité Saint-Serge, à l'Académie spirituelle. Et il écrit à ce moment-là son livre fondamental en 11 lettres adressées à un ami qui est la colonne et le fondement de la vérité. Sans entrer dans les détails, disons qu'il est arrêté à la fin des années 20, comme beaucoup d'ailleurs, comme également le philosophe Losieff. Il sera exécuté dans un cul de basse fosse à la Loubianka en 1937.
Alors, ce n'est pas le but ici de raconter les décennies de persécution. Pour le Kremlin, une société sans classe, ça devait être aussi une société sans religion. En même temps, ce qui se passe aujourd'hui ne s'explique pas si on n'évoque pas le bilan de ce long hiver des orthodoxes. Au total, l'Église, elle est restée vivante en dépit de tout, en tout cas. Quand le communisme est tombé, c'était la seule institution de l'ancienne Russie qui tenait encore debout.
Elle a été vivifiée par la persécution. Il y a une église des catacombes. À côté de l'église ralliée au régime, il y a une église des catacombes. Aujourd'hui, l'église actuelle, elle est vivifiée par cet héritage qu'elle reconnaît de l'église des catacombes et des martyrs qu'elle a eus, en particulier à Butovo, où il y a des fosses communes immenses et où il y a une sorte de nouveau monastère. C'est un peu un lieu comme pour célébrer, si vous voulez, l'immensité du massacre.
Oui, ça c'est d'accord. Mais en même temps, sur le travail de deuil, se construit une nouvelle collaboration entre le pouvoir russe actuel et la hiérarchie. Dès juillet 98, enterrement de la famille impériale massacrée à Ekaterinenbourg et qui revient à Saint-Pétersbourg en présence du président d'alors.
Cette poignée de main a valeur de symbole. Le prince Nicolas Romanov remercie le premier des Russes d'être venu à Saint-Pétersbourg honorer la mémoire du dernier tsar. En tant qu'homme et en tant que président, je me devais d'être là, a dit Boris Eltsine. Nous devons clore ce siècle qui a été sanglant pour la Russie par le repentir. Une cérémonie de la réconciliation entre héritage soviétique et héritage tsariste. Prince ou contre Manov, russe blanc, ancien prisonnier des goulags, artiste, historien, ambassadeur, leader politique de Moscou et d'ailleurs, l'assistance est très variée, mais tous ont en commun un recueillement visible. Devant la tombe collective où reposent enfin Nicolas II et les siens, après 80 ans d'incertitude et d'égarement, le vrai deuil commence.
Bon, beaucoup pensent que le vrai deuil n'a pas commencé. Ce sont les livres d'un père qui s'appelle le père Mitrofanov. Et puis je voudrais quand même dire que le patriarche n'a pas reconnu les restes qui ont été enterrés à la cathédrale de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul à Saint-Pétersbourg. Il ne l'a pas reconnu. Ça a été fait contre le désir du patriarche de l'époque, Alexis II.
Mais le patriarche Cyril, aujourd'hui, va assez loin dans la coopération avec le pouvoir, au point qu'on peut dire qu'il est instrumentalisé. La hiérarchie trouve d'ailleurs ses intérêts. Et puis les prêtres qui touchent des revenus fiscaux, qui peuvent faire du business sur les biens du salut.
Ah, ça, je vous laisse la responsabilité de cette définition. Je ne vois pas les choses comme ça. Il est possible que l'État russe soit plus instrumentalisé par l'Église officielle que la réciproque. Et le patriarche a quand même pouvoir sur un territoire beaucoup plus grand que le président Medvedev, sur l'Ukraine, dont la majorité des paroisses reconnaissent ce patriarche. Et il a fait un voyage qui a été un succès en Ukraine. Tout le monde avait pensé que ce serait un échec.
Vous nous disiez que vous étiez dans un monastère et que voilà que surgissent le patriarche et Poutine ensemble.
Oui.
C'était quand ?
Ah ben c'était en juillet dernier, parce que ce monastère splendide où il y a 220 moines, j'y étais avec mon épouse. Et puis nous avons appris que le patriarche venait. Il a construit un skit magnifique pour lui, avec une espèce d'église-musée. Et derrière son skit, eh bien, il y a une sorte de skit pour Vladimir Poutine, mais je ne l'ai pas vu.
Vous me laissez la responsabilité de la conclusion. Peu de temps après, cet automne 2011, la Vierge a laissé une ceinture au Mont Athos et au du Mont Athos. La ceinture est descendue et elle a été présentée à peut-être 1 million de personnes qui faisaient la queue, dont...
Non, moi, je n'ai pas fait la queue, si c'est ça que vous voulez dire, voir la ceinture. Il y a eu 1 million de personnes, mais je dois vous dire que quand même, le moine prêtre d'Athos qui a apporté cette ceinture pour 8 jours est actuellement en prison en Grèce.
Oui, mais Poutine, lui...
Je me souviens de ma visite sur le mont Athos et la réception chaleureuse, cette ambiance cordiale. Ça va rester pour toujours dans ma mémoire.
Donc le mont Athos vous aime.
C'est Poutine qui allait baiser la ceinture de la Vierge. Ah, les ambiguïtés du rapport Église-pouvoir.
Il est allé au mont Athos.
Mais... Et il est orthodoxe, c'est vrai. Nous allons à Nantes, Frédéric Lodéon, à 16h, en direct de la Cité des Congrès. C'est le début de la participation des émissions de France Inter aux Folles Journées. Et demain, en direct aussi, les Affranchis du même endroit. Il est 14h, vous écoutez France Inter.